Libre-échange avec Tamir Olfi.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Aswad dans le cadre de Libre-échange. Mon invité aujourd'hui dirige un groupe dans plusieurs secteurs, mais avec une activité principale dans le domaine de la logistique. Son groupe s'appelle Dislog Group, géré par une société holding qui mène un certain nombre d'investissements, et ça sera le sujet qu'on va développer, celui de l'investissement, HNS Investissement.
L'invité de la semaine.
Monsef El Hayat, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Toujours un plaisir de te retrouver, mon cher Thiami.
Alors, ce qui fait qu'on vous invite, c'est que vous avez annoncé il y a 2 semaines un nouvel investissement en joint venture, donc en association avec un groupe. Et ce qui est intéressant dans cet investissement, c'est 2 éléments, et on voudrait le débattre avec vous. Le premier, c'est que le partenaire est un opérateur qui a un certain nombre de décennies d'expérience dans l'agroalimentaire égyptien. Ce n'est pas un investissement européen, ce n'est pas un partenaire européen. C'est un partenaire d'Afrique du Nord qui a des similitudes peut-être de marché à la taille et différence près de la taille de marché avec nous. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est aussi de voir comment cet investissement, vous le placez dans le cadre de votre groupe et nous permettre de mieux comprendre votre stratégie. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cela ?
Alors, je vais répondre à votre question par la deuxième partie. Le groupe Dislog est un groupe qui a été fondé il y a de cela 14 ans. Nous avons commencé nos investissements dans les métiers de la distribution et de la logistique. Et très vite, il fallait prendre un cap qui consistait à vraiment se différencier par rapport à nos concurrents, qui était celui de nous positionner sur les produits de grande consommation en tant que distributeur indépendant, sur l'ensemble de la chaîne de valeur allant de l'usine jusqu'au consommateur. C'est ce qu'on appelle un positionnement de full service provider. Et on a eu beaucoup de chance parce que au moment où nous avons pris ce virage de full service provider, beaucoup de multinationales de produits de grande consommation se sont, à cause de la mondialisation, redéployées sur Dubaï et nous ont permis de pouvoir récupérer l'ensemble de leurs activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ces produits de grande consommation.
Alors, quand vous dites les multinationales sont redéployées sur Dubaï, très concrètement, leur direction générale, leur bureau, et dans certains cas, leur production est allée dans d'autres pays.
Tout à fait. C'est la mondialisation où ils ont des usines aujourd'hui qui fabriquent des marques mondiales et qui font qu'ils ont maintenant des hubs régionaux. Et ces hubs régionaux se sont relocalisés sur Dubaï et puis récemment, de plus en plus sur Singapour. Alors, c'est quoi cette chaîne de valeur pour un produit de grande consommation ? C'est qu'un produit, quel qu'il soit, vous le produisez, vous devez soit le produire dans une usine au Maroc, soit l'importer. Ensuite, il faut le transporter, il faut le stocker, il faut le distribuer. Il faut faire du below the line marketing, il faut faire du above the line marketing avec la com, du digital, de l'achat d'espace média. Et donc, ce que nous avons fait au sein du groupe Dislog, c'est que nous avons créé un groupe avec des entreprises qui opèrent sur l'ensemble de ces métiers, de cette chaîne de valeur.
Sur l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur.
C'est ça. Alors, malheureusement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons pu créer un grand groupe, 2,5 milliards de chiffre d'affaires sur les métiers de la logistique, du transport, de la distribution, de la communication, des médias, etc. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le groupe n'est pas assez rentable. Vous êtes dans un métier où vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, mais très peu de rentabilité, très peu de marge.
La marge est faite parce que ce n'est pas vous qui avez produit le produit.
C'est ça.
Donc la valeur ajoutée n'est pas chez vous, elle est chez vos clients.
Chez le producteur. Alors, justement, nous avons fait une analyse interne, financière, avec des consultants externes. Et nous avons pris la recommandation qui est celle de lancer des marques propres à nous et de nous intégrer industriellement pour que les marges d'EBITDA s'améliorent, nous permettant de devenir un groupe plus rentable. Donc, on a passé la première étape qui était celle d'arriver à ce qu'on appelle en anglais le scale, c'est-à-dire la taille. Oui, oui. Une fois que vous arrivez à la taille, vous devez améliorer la rentabilité financière et par conséquent, on fait une intégration verticale en amont en lançant des industries. Alors, Edita n'est pas le seul projet, il y en a plusieurs. Donc, je suis de ceux qui...
Oui, il y en a certains que vous avez déjà annoncé il y a quelques mois sur notre antenne.
Exactement.
Et là, c'est un nouvel investissement.
Ça, c'est un nouvel investissement. Donc, c'est un investissement où le groupe met quand même 100 millions de dirhams dans un investissement d'une usine à Barchid qui va créer 707 emplois et qui va permettre de pouvoir rentrer dans la catégorie du snacking, c'est-à-dire des biscuits. Nous avons choisi un partenaire égyptien qui est le leader arabe de snacking. c'est un partenaire qui est coté à la bourse du Caire, mais aussi à la bourse de Londres. Et ce qui nous intéressait dans ce partenaire, c'est clairement la qualité des produits qu'il a, la qualité des ressources humaines, la qualité des process, en prenant en compte que c'est eux qui sont majoritaires dans ce projet industriel au Maroc pour des raisons de consolidation. Et nous, nous avons l'exclusivité de la distribution de ces produits, nous permettant de pouvoir rentrer dans une catégorie au Maroc qui pèse 5 milliards de dirhams, qui est grosse. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dislock Group aujourd'hui rentre dans une dynamique d'investissement et contrairement à beaucoup qui aujourd'hui ralentissent, nous on accélère parce qu'on croit en notre pays, on croit en la capacité de consommation de notre pays et on croit que notre pays va nous offrir des opportunités importantes sur les fast moving consumer goods sur les prochaines années, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest.
Nofel Darif, La Vie Éco.
Oui, pour moi déjà, vous avez fait le pas d'investir, chose que beaucoup d'opérateurs, notamment du privé, doivent faire de plus en plus. Oui. Notamment si l'on se tient aux chiffres, le secteur privé est toujours à la traîne par rapport aux investissements. Et le salut ne viendra que du secteur privé parce que le public, il fait ce qu'il a à faire.
Je suis d'accord avec vous, Cédarif.
Voilà. À part ça, j'aimerais bien vous interpeller sur le modèle joint venture. Qu'est-ce que les autres secteurs pourraient bénéficier à faire dupliquer cette manière d'investir, c'est-à-dire en joint venture? Qu'est-ce que cela peut apporter?
Il faut être clair. Moi, je viens d'une école qui, vous le savez, tout ce qui est purement américaine. Il faut savoir faire son métier. Mon métier, c'est un métier de la distribution, de la communication des médias. Je ne suis pas un industriel. Et donc, sur l'ensemble des projets que j'ai décidé de lancer de manière verticale dans l'industrie, nous avons décidé de choisir quelqu'un qui est connaisseur de cette industrie. Et donc, à chaque fois qu'on veut aller dans un métier industriel, ben on choisit le meilleur.
C'est le savoir-faire.
Et le savoir-faire.
Et en fait, vous nous disiez, il est majoritaire.
Il est majoritaire.
Donc, lui, il consolide parce qu'il est coté, parce que ça lui
permet. Et nous, on distribue. Et vous distribuez. Chacun donc, fait son métier.
Voilà. Mais vous distribuez, mais en plus, vous récupérez une partie du rendement, même si vous n'êtes pas majoritaire.
Oui, parce qu'on est actionnaire. Donc, on est actionnaire dans la JV. On a 45%. Ils ont la majorité. Et donc, à 45%, on est minoritaire, mais on reste un gros minoritaire quand même qui est à des. On s'est mis d'accord sur des éléments de gouvernance nous permettant de pouvoir co-gérer l'entreprise. Mais in fine, ils sont responsables de la partie industrielle. Ils sont responsables de la partie qualité des produits. Et quand vous avez un bon produit et qui est bien distribué avec de la bonne communication, généralement, c'est l'équation qui permet de réussir un projet. C'est 5 milliards de dirhams, c'est énorme.
C'est le marché.
C'est le marché. Si on a 5 à 10% du marché, ben, on sera très heureux.
Quelle est, Monsieur Volkhayat, la taille de la part de ce marché de 5 milliards de dirhams dans la biscuiterie, la confiserie? Quelle est la taille de ce qui est importé? Qu'est-ce que ça représente?
Alors, je veux vous répondre à cette question, mais entre-temps, je voudrais ouvrir une parenthèse sur ce qu'a dit Cédarif. Parce que c'est très important que les opérateurs économiques comprennent la vision actuelle du gouvernement. J'ai bien analysé les choses. Le gouvernement est en train de donner des signaux qui sont très très forts pour encourager le secteur industriel. Il y a clairement des annonces qui ont été faites pour la prochaine loi de finances qui vont permettre de baisser les impôts pour tous les industriels. Donc le gouvernement est en train de pousser la production locale, l'industrie locale et l'export à partir du Maroc et va désencourager l'importation en augmentant les droits de douane.
Donc nous avons des accords de libre-échange dans un certain nombre de pays, on ne peut pas revenir dessus.
Anna, je vous invite à voir la dernière déclaration de Moulay Hafid El-Alami.
Oui, j'ai entendu, mais relative. Il y a la réalité aussi des engagements du Maroc.
Alors, il a dit de manière très claire, j'encourage l'industrie, j'augmente les droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange que j'ai au niveau de l'OMC.
En fait, dans votre cas, pour revenir... il faut dire que c'est difficile quand on invite un patron chef d'entreprise qui a aussi un engagement politique par ailleurs et un engagement dans la société.
Aujourd'hui, je viens avec ma casquette de chef d'entreprise.
Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je dis avec son engagement aussi dans la société, on ne peut pas avoir une réponse simplement technique, mais forcément, on a une réponse globale. Bon, ben, ça fait partie des règles du jeu et c'est intéressant.
Mais parfois, ça, c'est dangereux.
Oui, oui. Alors, je voudrais justement revenir au business lui-même. Quelle est la part du marché d'importation? Parce que, in fine, sur les 5 milliards dirhams, il y a une partie que nous importons déjà. Nous sommes noyés de biscuiteries.
Alors,
qui viennent de partout.
Détrompez-vous.
D'Égypte, des Émirats et de Turquie.
Détrompez-vous. La majorité du marché de ces 5 milliards est produite au Maroc. Nous avons trois grands opérateurs qui existent. Je vais les citer.
Allez-y.
Nous avons le premier opérateur, c'est clairement le groupe Mondelez, oui, qui est un investissement étranger qui avait racheté de l'ONA à l'époque BIMO.
Oui, bien sûr.
Nous avons aussi le groupe Boots-Gray qui a une très très belle unité qui s'appelle Excello. Et enfin, nous avons un nouvel arrivant qui est le groupe Zin, qui a lancé une nouvelle usine et qui nous permet aujourd'hui d'être plusieurs players dans ce secteur. C'est un secteur qui est assez grand, qui est dominé clairement par nos amis de Mondelez et du groupe Boots-Gray. Et par conséquent, nous allons être les petits poussés de ce marché. Et nous n'avons pas de velléité à perturber le marché. Nous venons en challenger. Si on arrive à faire 5% de part de marché pendant les trois premières années, on sera très content de par la taille du marché, bien sûr.
Oui, sur ce point, Sebelkhiat, vous avez tout à l'heure dit que vous allez désormais lancer vos propres marques.
Non, mais c'est...
Comment vous voyez déjà le positionnement sur ce marché? Parce que, par exemple, je ne vous apprends rien, Mondelez est bien positionné sur les trucs à 1 dirham, par
oui.
exemple.
Alors, nous avons commencé par importer une ligne de produits qui sont la gaufre d'Égypte. Nous les avons positionnés aussi à 1 dirham. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un grand succès commercial, déjà au niveau de l'importation. Nous lançons deux autres lignes de gamme différentes de produits. Et nous allons nous aussi nous positionner sur des produits 1 dirham, 2 dirhams et à 3 dirhams.
Alors justement, c'est la question, pardon, Nofel Darif, oui. que je voulais poser. Nous avons des accords de libre-échange avec l'Égypte.
Oui.
Comme avec les Émirats, la Turquie par exemple, oui. la Jordanie, d'autres pays. Mais le fait que vous importiez, est-ce que ça vous permet d'avoir une opération pilote pour tester le marché et aller sur les éléments de la chaîne de valeur que vous maîtrisez? Et in fine, quel est l'intérêt d'avoir une usine si vous pouvez importer?
D'abord, avec l'Égypte, nous exportons nos voitures en Égypte et nous importons plusieurs produits de grande consommation parce qu'ils ont un tissu industriel qui est fort. Ne pas oublier que l'Égypte a connu, il y a à peu près un an et demi, une dévaluation de la monnaie locale de 50%. Qui fait que leur tissu...
Leur capacité exportatrice aujourd'hui est puissante.
Est puissante et surtout compétitif. Et donc, si nous avons décidé d'importer, c'est seulement sur une gamme de produits où les dates limites de consommation sont entre 9 et 12 mois. Mmh. Par contre, sur tous les produits, notamment alimentaires, où les dates limites de consommation sont moindres, oui. on va les produire ici localement.
Le fait que vous associez à un partenaire égyptien... est-ce que vous avez trouvé des connaissances de similitudes de marché, des niveaux de dialogue plus faciles
De comportement de consommation aussi.
Oui, que ce qu'on aurait pu trouver avec, je vais le dire, un Allemand, un Émirati.
Tout à fait. L'Égypte est un grand pays, 100 millions d'habitants, trois fois la taille du Maroc en termes de consommation. Nous avons trouvé des partenaires formidables en termes de modèles de gouvernance en termes de technicité, de qualité. Et nous avons eu toutes les facilités à pouvoir finaliser nos accords. Ce qui est aujourd'hui important, c'est de comprendre que, in fine, à terme, moi je suis persuadé que nos économies pour des pays pareils ne pourront grandir que s'il y a une ouverture de frontières claire au niveau économique sur les 5 pays de l'Afrique du Nord. Et donc moi je table sur les 20-30 prochaines années, clairement, à ce que le marché de l'Afrique du Nord grandisse. Je crois plus en l'Afrique du Nord qu'en l'Afrique de l'Ouest pour les produits de grande consommation. Tout le monde va en Afrique subsaharienne et c'est à la mode.
Des gaufres à 1 dirham en Afrique subsaharienne.
En fait, le problème, il est simple. C'est que quand vous vendez du service, de la banque, de l'assurance, de l'aérien, on peut vendre du service facilement en Afrique subsaharienne. Par contre, quand il s'agit de transporter physiquement de la marchandise avec la logistique, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de tarifs douaniers, en termes de réglementation, en termes
de barrières non tarifaires,
etc. Mmh. Donc moi, je crois beaucoup plus en le potentiel du marché marocain qui s'intègre à celui de l'Algérie et de la Tunisie que plutôt à celui de l'Afrique de l'Ouest.
Nofel Darif, la vie éco.
Je vais sortir un petit peu du...
Ça sera la dernière
de
question.
De la parenthèse de l'investissement purement dit. Pour dire, aujourd'hui, le secteur de l'agro-business est sur un contrat-programme qui est en gestation.
Oui.
J'aimerais bien avoir votre vision en tant qu'opérateur sur ce qui manque au secteur pour être vraiment compétitif.
Écoutez, moi, je pense que ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment est positif. Pourquoi? Dans le cadre de cet investissement, nous avons signé avec le ministère du Commerce et de l'Industrie une convention d'investissement qui, de par les emplois que nous créons et l'investissement que nous faisons, et qui est un investissement international, et qui a eu la cooptation de la Banque mondiale, puisque la SFI a donné à Edita un prêt de 20 millions de dollars pour cet investissement. Donc le gouvernement a mis en place un fonds qui aide les industriels pour pouvoir subventionner leur investissement. Donc on a eu une aide du gouvernement par rapport à cet investissement qui est de l'ordre de 15% de l'investissement global, plafonné à 15 millions de dirhams pour nous aider à le faire. Deuxième élément, c'est que les annonces
Elle va sur quel poste cette aide ?
Elle va sur tout ce qui est CAPEX, c'est-à-dire tout ce qui est achat de matériel. Et achat de lignes de production. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que le projet de loi de finances qui a été annoncé par notre ministre des Finances et notre ministre du Commerce et de l'Industrie prévoit une baisse d'impôt significative sur le secteur de l'industrie pour arriver à 20%. Une baisse de 31 à 20 à terme est quand même un signal très fort sur une politique et une volonté gouvernementale pour aider les opérateurs. Donc moi, j'invite les opérateurs à se transformer en industriels parce que je pense que ça, dans les années qui viendront, ça va être beaucoup plus compliqué pour les importateurs que pour les producteurs qui auront une plateforme d'exportation intéressante au Maroc.
Merci, on va aller vers la fin de l'émission.
Le Zoom de Libre-Échange.
Alors le Zoom de Libre-Échange cette semaine, je voudrais le consacrer à cette question d'investissement que nous discutons, nous observons depuis quelque temps une sorte de léthargie, une sorte d'attentisme de la part des investisseurs nationaux. Je parle de mes concitoyens. C'est vrai, certes, la confiance qui est la base de l'envie d'investir ne se décrète pas et que nous avons un sujet à traiter ensemble là-dessus. Mais voilà, de nombreux cas d'investissement que nous observons dans différents secteurs dits classiques. Nous avons reçu un certain nombre d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises dans les studios d'Aswat ces dernières semaines qui nous montrent qu'il y a des choses qui se font. Et nous avons le cas aujourd'hui de cette industrie dans la biscuiterie qui est donc dans le secteur agroalimentaire et nous continuerons à consommer puisque nous avons besoin de consommer dans notre pays comme ailleurs. Voilà un investissement qui se fait dans un secteur où d'autres opérateurs se plaignent de la concurrence de nombreux pays, que ce soit les pays arabes, que ce soit la Turquie en particulier. Mais il n'y a pas de fatalité. C'est peut-être aussi lorsqu'on est dans des périodes comme celle-ci qu'il faut chercher à observer, imaginer, comprendre et saisir les opportunités de notre propre marché, de nos propres consommateurs. Il faut mettre de la lumière, à mon avis, sur une nouvelle génération d'entrepreneurs audacieux et compétents, pas forcément fortunés. Ils ont de la place à prendre, et le Maroc a besoin, certes, de leur énergie, de leurs énergies et de leur inventivité. Le mot de la fin.
D'abord, j'adore ce que vous venez de dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a 14 ans, j'ai commencé avec un capital de 1,5 million de dirhams. Et donc aujourd'hui, on a un groupe qui emploie avec cet investissement 2300 personnes, beaucoup de fierté. Je voudrais aussi dire que pour investir, il faut qu'il y ait de la confiance. Certes, il y a beaucoup de climat de morosité, notamment ces derniers mois. Mais je pense que notre rôle en tant que jeune entrepreneur, c'est de démontrer qu'il y a aussi des histoires de succès et qu'il faut encourager ces histoires de succès et dire que des jeunes peuvent se lancer et peuvent réussir. Pas seulement dans le service, mais maintenant aussi dans l'industrie, puisque le gouvernement est en train de mettre les choses en place.
Monsieur Rayad, vous êtes président de Dislog, on a parlé de votre activité. J'aimerais peut-être avoir une dernière question, puisque nous sommes à la fin de Libre-Échange. Vous êtes aussi membre du patronat, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGEM.
Oui.
Nous avons eu un patron des patrons qui a présenté sa démission il y a 2 semaines.
Oui.
Il y a moins de 24 heures, lundi après-midi, il y a eu une réunion du conseil d'administration qui a pris une décision. Comment vous observez cette situation aujourd'hui à la CGEM ? Quel est votre regard ?
Mon regard est très simple, c'est que la CGEM est une organisation qui est extrêmement importante pour accompagner les politiques gouvernementales pour améliorer ce climat de confiance dont on parlait tout à l'heure pour pousser l'investissement. C'est une organisation qui est aujourd'hui structuré surtout autour de la PME et de la toute petite entreprise.
Mais les grands groupes sont quand même présents.
Les grands groupes sont présents et ont beaucoup plus de pouvoir et de puissance quant aux décisions de la CGEM.
Absolument.
Maintenant, est-ce que parce qu'ils sont les gens qui cotisent le plus ?
Forcément, les statuts permettent aux grands groupes de décider avec un poids qui est supérieur à celui de la TPE-PME. 96% du tissu national, c'est de la PME-TPE et par conséquent, c'est à eux qu'il faut donner la parole. Je suis ravi de voir que la CGEM a élu un président intérimaire pour 3 mois en la personne de Sibeh Chery, qui va préparer les élections du nouveau président et d'un nouveau mandat avec...
Alors, M. Sibeh Chery est dirigeant d'une filiale de Renault.
Il est le président de Somaka, oui.
Et voilà, et en fait, ce n'est pas un entrepreneur, encore une fois. On a un patron qui travaille pour un groupe international. Oui, mais... c'est important, parce que vous voulez parler des PME, des TPE. Il faut qu'ils se reconnaissent, mais...
Je vais vous répondre, M. Sibeh Chery.
Il a accepté la mission pendant trois mois. Il n'a pas de velléité pour la suite. Mais évidemment, ce sont des signaux aussi que les TPE-PME décryptent et ça doit leur parler.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un monsieur d'une grande
absolument,
facture.
Absolument.
Très compétent, qui va gérer cette période de transition et qui va surtout préparer des élections pour qu'il y ait l'élection d'un président ou d'une présidente en toute indépendance. J'espère, à titre personnel, que le prochain président ou la prochaine présidente sera un chef d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un qui est propriétaire de son entreprise, qui a investi son argent, qui a pris du risque, plutôt qu'un dirigeant.
Merci. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous, pour vous allez vous présenter ?
Absolument pas.
Merci beaucoup, Monsieur Volkhayat. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Disloc et nous étions dans Libre-Échange sur Aswat. La semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est sur Aswat que j'aurai le plaisir de vous retrouver.